Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 12h et mercredi de 10h, heure de Kinshasa.
J'ai reçu totalement ce qui
s'est passé.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations quotidiennes. Ce mardi 12 juillet 2011, nous revenons sur la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet et c'était hier. En 1989, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD a recommandé de faire du 11 juillet la Journée mondiale de la population. Cette journée issue de la journée des 5 000 milliards. Et des 5 milliards célébrés le 11 juillet 1987 a pour objectif d'appeler l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de la population, notamment dans le cadre des plans et programmes généraux de développement et sur la nécessité de trouver des solutions. Cette année, la Journée mondiale de la population sera marquée par la naissance prévue du 7e milliard d'habitants sur la planète Terre. Plusieurs thèmes et messages sont retenus pour la célébration et Parole aux auditeurs de ces jours se penche sur la pauvreté et les inégalités et les voies et moyens de rompre ce cycle. Tout en retenant que la lutte contre la pauvreté et la réduction des écarts ralentissent aussi la croissance démographique. Selon le rapport Perspectives économiques en Afrique de 2005, en 2002, 81% de la population congolaise vivait en dessous des seuils de pauvreté fixés à 2 dollars par jour. Près de 44% des femmes et environ 22% des hommes n'ont aucun revenu. Peut-on parvenir à réduire la pauvreté ainsi que les inégalités? Parole aux auditeurs, reçoit dans cette émission le docteur Joseph Kayembe, démographe et chargé du programme Population et Développement au Fonds des Nations Unies pour la Population. Tekin Poutou est à la réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Noël Mokondo. Nicole Ndiaka est à la supervision. Pierrot et la Mégie à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
11 juillet 2011, 7 milliards d'habitants sur la planète Terre. La pauvreté et les inégalités sont au centre de notre émission. Comment lutter efficacement contre la pauvreté et surtout peut-on réduire celle-ci ainsi que les inégalités dans la population? Vous avez besoin d'intervenir. Appelez-nous au 081-890-6315. 081-890-6315. Vous avez aussi accès à l'internet. Vous pouvez également réagir en nous envoyant un message électronique à l'adresse pa@radiookapi.net. Message électronique à l'adresse pa@radiookapi.net. Le temps que nous puissions recevoir notre invité qui vient de faire son entrée dans ce studio, avec qui nous allons partager ces quelques 55 minutes autour de la Journée mondiale de la population et surtout l'angle que nous avons choisi avec vous, la réduction de la pauvreté ainsi que les inégalités. Monsieur Joseph Kayembe, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au studio de Radio Capi.
Merci bien.
Je venais de faire une petite introduction pour notre émission d'aujourd'hui. Je vous présente, vous êtes le chargé du programme Population et Développement au Fonds des Nations Unies pour la Population, c'est ça?
Exact.
Voilà, et nous parlons de la Journée mondiale de la population,
oui.
Avec une note particulière, les 7 milliards d'habitants sur la planète Terre.
Oui.
Mais l'anglais, comme je venais de le dire, choisi pour nous aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de messages, nous allons nous focaliser sur la pauvreté, les inégalités. Est-ce qu'on peut parvenir à réduire cela, en cas, bien sûr, de la République démocratique du Congo? Mais bien avant d'aller plus loin, la première question peut-être c'est de savoir, 7 milliards d'habitants, est-ce que la planète court un danger avec 7 milliards de personnes?
Oui, merci bien pour la question. Je voudrais d'abord situer le contexte. Cette année, pourquoi on célèbre les 7 milliards? Les Nations Unies ont voulu, à partir du 1er juillet, où l'on célèbre la Journée mondiale de la population chaque année depuis 1985, les États-Unis, les Nations Unies ont voulu lancer une série d'activités de plaidoyer qui vont partir du 11 juillet, donc hier, jusqu'au 31 octobre. C'est le jour où, selon les estimations des Nations Unies, le monde devra atteindre 7 milliards d'habitants. Et donc, il y aura une série d'activités pour mettre en lumière les défis et les opportunités dans un monde de 7 milliards. C'est dans ce contexte-là que l'on célèbre cette année 7 milliards. Est-ce que le monde court un danger? Comme je viens de le dire, il y a des défis qu'il faut relever, parce que quand on examine l'accroissement de la population dans le monde, on sait que depuis que l'homme est sur la Terre, jusqu'au 19e siècle, en 1804, on a atteint 1 milliard d'habitants. Mais par la suite, au cours d'un seul siècle, quand on part de 1927 jusqu'à 1998, dans un seul siècle, on est passé de 2 milliards à 6 milliards d'individus. Et de 1998 jusqu'à maintenant, 2001, en 13 ans, on va atteindre le 7e milliard d'individus sur la Terre. Et donc, face à cet accroissement de la population, il y a des défis qu'il faut relever pour vivre dans un monde de 7 milliards. Défis par rapport aux ressources qu'il y a dans le monde, défis par rapport à l'environnement. Et donc, ce sont ces défis qui se présentent devant nous et pour lesquels les Nations Unies veulent mener des activités de plaidoyer. Il faut que nous soyons conscients de cela.
Voilà. Et pour revenir à ces premiers thèmes, ces messages que nous avons choisis pour cette émission, ce qui concerne la pauvreté et les inégalités, quand on regarde l'étape de 5 milliards en 85, je crois bien, comme vous l'avez dit, c'est ça, les 5 milliards à 7 milliards, quelles sont les proportions par rapport à la pauvreté? On voudrait plus revenir sur les cas de la RDC pour permettre aux éditeurs de bien se situer dans cette émission.
Oui. Si je prends le cas précis de la RDC, selon l'enquête 1 des 3 qui a été menée en 2004, on a eu des résultats. En 2005, les résultats étaient que 71% de la population de la RDC vit avec moins de 1 dollar par jour. Donc, vous voyez la proportion de pauvres qu'il y a dans le pays. Et donc, quand on regarde cette proportion de pauvres, quand on regarde l'accroissement de la population, il faut mettre en relation le nombre d'habitants en RDC et l'accès aux différentes ressources qui permettent aux gens de mener une vie de qualité, une vie décente. Donc, on ne peut pas s'empêcher de regarder les relations entre cet accroissement de la population, l'effectif de la population, le mouvement de la population et le niveau de pauvreté qu'il y a dans notre pays.
Voilà, Eric, vous êtes à Bukavu, bravo, vous êtes à Guémena, Guillaume est à Magui. On va vous donner la parole pour commenter avec nous ce sujet, surtout vos propositions, vous, auditeurs de Radio Capital, que vous pensez qui puisse être fait pour la réduction de la pauvreté. Et bien avant d'écouter les auditeurs, la dernière question pour cette première partie que je m'en vais vous poser, est-ce qu'il y a un lien direct entre l'accroissement de la population et la pauvreté? On peut dire que s'il y a autant de pauvres au Congo, c'est parce qu'il y a un accroissement de la population.
Non, on ne va pas faire un lien direct. Juste là où il y a l'accroissement de la population, il y a nécessairement la pauvreté. Ce qui est important, c'est de maîtriser la croissance de façon à ce que on puisse. Il faut maîtriser la croissance pour mieux planifier en fonction des ressources qui existent, des ressources que l'on peut générer, mettre cela en rapport directement avec l'effectif de la population. Donc c'est ça qui est important. On ne va pas dire que parce que la population croît nécessairement,
ça va être la pauvreté d'un côté.
Mais ce qui est important, c'est de pouvoir planifier, de pouvoir maîtriser la croissance par rapport aux ressources disponibles.
Voilà, ça c'est le plus important. Eric, bravo. Guillaume, vous allez avoir la parole tout juste après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Eric, vous êtes à Bukavu, au sud qui vous bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot, et merci pour la parole. J'en profite de présenter mes condoléances aux familles déplorées suite de ces derniers crashs de l'avion aéroport à Kisangani. Pour les personnes disparues, quoi est-ce qu'à Tripaque? S'agissant de la question, monsieur le journaliste qui a lancé notre émission en cours, mais prime abord, je précise que l'augmentation de la population, selon moi, est à la fois un bien et un mal pour un pays. Le bien, c'est quand elle correspond à un développement économique et social de ce pays. Et mal, c'est-à-dire nuisible dans le sens contraire. Et donc, tout est une question d'équilibre entre la quantité et la qualité. En effet, la situation dans notre société est que la population demeure pauvre. Elle vit une paupérisation à telle enseigne qu'elle ne parvient pas encore à satisfaire aux besoins fondamentaux de la vie, l'alimentation, le logement, l'habillement et la santé. Cela étant, certes, les causes sont là. Et pour faire face à celle-ci, voici la stratégie que moi je propose. Et là, je voudrais dire une avoir et l'engage des techniciens de développement rural, TDR, que je suis. Pour cela, je m'en vais paraphraser M. Mathias Bouabou-Akayende, le directeur de la NAPI, qui estime que l'agriculture doit être axée sur les priorités de la décentralisation. En fait, le potentiel agricole important de la RDC montre qu'il est possible de progresser lorsque l'agriculture est intégrée aux stratégies nationales de développement. Elle bénéficie de fermes appuis politiques et du soutien des autorités et des donateurs. Je vais conclure avec PIA, la politisation à outrance du processus de décentralisation dans notre pays. Elle est mal partie. À mon avis, c'est l'économie et le social qui devraient être la grande préoccupation des autorités à la base. Et au sein de cette économie, c'est l'agriculture et le développement rural qui devraient être les points de focalisation de l'attention des gouvernements et assemblées provinciaux et autres structures créées à la base. Ceci parce que, comme tout le monde le sait, le programme du chef de l'État tourne autour de cinq priorités majeures, les infrastructures, la création des emplois, les logements, les secteurs sociaux qui sont l'eau et l'électricité, l'éducation et l'enseignement. Pour tout ceci, nous suggérons de le faire selon le principe de Moutaki-Moutanis.
Merci Eric, on retient de votre intervention un point important pour vous, c'est le développement de l'agriculture, l'investissement dans l'agriculture qui est en fait la base de la réduction de la pauvreté. Merci beaucoup Eric, bravo, vous êtes à Guémena dans la province de l'Équateur, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Et Eric pense que l'investissement dans l'agriculture, c'est la base de la réduction de la pauvreté. Et vous, pensez-vous que cela puisse être possible?
Oui, je pense que il y a des problèmes, mais à la vie qui pense à la pauvreté. Ça ne serait pas facile, M. Pierrot, parce que c'est nous-mêmes qu'on relève la chambre sociale. C'est tout le problématique lié à la sensibilisation de la population de base, M. Pierrot. Quand on est du plan familial au village, c'est surtout la partie de problème. Imaginez, dans une case ronde, un papa avec plus ou moins 6 enfants, garçons, dans cette même case, les gens ont les petits-fils qui habitent, c'est pas possible. Donc, ce problème est lié au socio économique. Et c'est pas une ni de consommateur, ni de capital économique, c'est pas une des affaires, ou une époque qui habite les vies, ou une petite maison. Mettons, c'est ça le problème vraiment lié à la sensibilité de la population. On ne sait pas, parce que je ne sais pas, c'est différent de nous, deux fois le temps d'avant. C'est nous-mêmes, nous, qu'on est, qui est en train de recharger des données dans la pauvreté. Donc,
On a un problème. Oui. Apparemment, on a un problème de ligne de téléphonique avec vous. Et aussi, vous avez, oui, et vous aussi, vous avez la radio à côté, ce qui ne vous permet pas de nous suivre. Il y a un écho, on ne saura pas aller plus loin. Mais nous avons retenu pour vous qu'il faut sensibiliser la population sur. Vous avez évoqué le nombre d'enfants dans une famille, mais vous pensez qu'il faut sensibiliser la population sur la responsabilité par rapport à la procréation. Si vous voudriez utiliser les termes en tant que tel, parce que vous avez évoqué le nombre d'enfants dans une famille. Vous avez ajouté au-delà de ce que Eric a parlé de l'agriculture. Merci beaucoup, mais on ne sera pas loin avec vous pour la qualité de votre ligne téléphonique. Guillaume, vous êtes à Mahagui, en province orientale. Bonjour.
Oui, bonjour, je suis à Mahagui.
On vous écoute, Guillaume.
Oui, merci beaucoup, condoléances à ma grande province orientale. Ok, voilà, je reviens sur le thème.
Oui, allez-y, Guillaume, on vous écoute.
Ok. Les responsables politiques du G8 lors d'une réunion à Paris le 16 juin 1998, le monde a pris conscience de la nécessité de mieux préserver la pauvreté et de l'équilibre de l'écologie. Donc, la plus grande partie des pauvres sont des ruraux et que leur sujet dépend de la production du sol qui se dégrade. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons la responsabilité de trouver des solutions au lieu de faire plusieurs théories face à cette situation. Donc, ce que je peux commencer à vous noter, donc, il n'y a pas une lutte contre la pauvreté sans la création de l'emploi. Nous n'ignorons que 80 millions d'êtres humains naissent chaque année et que 76 millions dans les pays de Pède. Donc, avec 700 millions d'adolescents qui sont arrivés sur le marché d'emploi en 2010, donc la pauvreté est définie au nord comme toute personne dont les ressources n'atteignent pas 50%. Et que aussi de cette définition varie, on considère la pauvreté comme toute population dont les ressources n'atteignent pas $1 par jour. Mais quelles sont les propositions que je vais vous avancer? Les défis sont nombreux. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a la croissance dans la fantasme démocratique anarchique, les conditions de vie de travail dégradantes, il y a manque d'une politique de soutien, les conditions de climat de l'écosystème. Donc, pour faire, il faut faire notre propre production et ne pas seulement parler de l'importation. Je vous remercie. Bonne journée. Aujourd'hui, je m'arrêterai sur le groupe demain.
Voilà, on a retenu trois choses. La création d'emplois, l'amélioration des conditions de travail et la production au lieu de l'importation. Ça, c'est Guillaume qui pense que c'est ces trois conditions réunies, on peut réduire la pauvreté. Merci beaucoup, Guillaume. Al-Boumbashi, Evariste, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Kiro.
Et si je peux vous rappeler, Eric pense qu'il faut investir dans l'agriculture. Bravo pense qu'il faut sensibiliser sur les problèmes de co-création. Guillaume parle de la création d'emplois, l'amélioration des conditions de travail et aussi la production. Qu'est-ce que vous ajoutez au-delà des faits qu'ils ont dit pour parvenir à réduire la pauvreté, Evariste?
Moi, je voudrais plus parler sur les taux de natalité qui fait que ça croissait dans notre pays. Vous savez, il y a un grand auteur, je ne sais pas Karl Marx, qui a dit, ne donnez pas la chance à un pauvre de mettre au monde, il va donner la chance à une succession de pauvres. Le problème, c'est quoi? Un pays qui est déjà pauvre, qui ne fait qu'accroître, disons, sur le plan des taux de natalité, ne fait que ça, disons, approfondir les taux de la pauvreté ou bien le sous-développement ne fait que ça croître. Qu'est-ce que j'aimerais dire par ici? Que notre gouvernement mette en place l'utilisation de notre population pauvre, puisque nous sommes un pays pauvre, nous devons réduire les taux de natalité dans notre pays. C'est très important. Plus vous donnez naissance aux enfants, plus aussi la pauvreté s'accroît. Alors, qu'est-ce qu'il faut à ce niveau-là? J'ai rejoint mes prédécesseurs qui ont parlé, disons, de la mise en œuvre de la politique, disons, de la production, bien de l'agriculture. L'homme étant d'abord le seul, disons, facteur, le premier, disons, acteur du développement, l'homme doit se mettre au travail et non pas à toute la fois le travail. C'est l'homme qui fait le travail, même le gouvernement qui fait, le gouvernement est dirigé par les hommes. Donc l'homme doit d'abord créer le travail pour s'assumer, pour assurer son service. Voilà était mon apport par rapport à cette émission.
Merci, Evariste Elboumbashi. On va terminer avec Justin qui est à Béni. Le temps de permettre à notre invité de pouvoir commenter ses points de vue des auditeurs. Justin, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Pierre et bonjour à notre invité, je suis Justin Césaire à partir de Béni.
On vous écoute.
Pour moi, le poids du développement, soit que pour suspendre la pauvreté, il y d'abord l'application de la culture. Quand je parle de la culture, je vois la culture des produits vivants et puis l'élevage. C'est le premier point du développement d'une population. Un deuxième point que je vais souligner, c'est le temps créateur d'emploi. Vous voyez, la population congolaise, puisque les jeunes étudiants qui finissent les études et les jeunes élèves n'ont pas d'emploi. Mais ils doivent se démener pour créer et frapper par-ci et là à la porte pour chercher l'emploi d'abord. Ensuite, les produits vivriers qui sont produits par les pauvres cultivateurs n'ont pas un marché. Vous allez constater avec moi qu'un pauvre cultivateur qui a trouvé facilement les cacao, sauf que les farines de manioc, sur le marché, il les vend à un prix qui n'est pas satisfaisant, qui ne peut pas réduire la pauvreté chez la population. C'est vraiment le grand point que j'aimerais souligner.
Merci Justin. François, vous allez garder la ligne le temps que l'invité réponde, parce qu'il y a au moins 5 personnes qui sont exprimées. Vous gardez la ligne, on va revenir à vous. Merci Justin. L'agriculture, l'élevage, l'autocréation d'emploi, l'accès au marché pour ceux qui produisent. Et mélangé à tout cela, il y a des risques qui a parlé de la production et la création du travail, mais aussi la réduction du taux de natalité. Merci à vous pour ce point de vue. On va se retrouver après quelques secondes avec notre invité pour commenter ces points de vue des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
On revient à vous, M. Joseph KMB. Vous avez suivi les 5 auditeurs. Chacun est allé avec sa définition de la stratégie, que ce soit de la réduction de taux de natalité, la création d'emplois, l'investissement dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous pensez de ce que ces auditeurs de Radio Capi ont avancé comme idée sur la réduction de la pauvreté?
Oui, je voudrais commencer par Eric qui disait que l'accroissement de la population, c'est en même temps un bien et un mal pour un pays.
Mm-hmm.
Je dis oui, il y a des défis, il y a des opportunités. Presque tous les intervenants sont revenus sur les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir surmonter la pauvreté, réduire la pauvreté. C'est important. Mais c'est pour cela qu'au début, je disais que ce qui est le plus important pour nous, c'est de savoir planifier, c'est d'avoir maîtrisé la croissance. Il propose, il y en a un qui a dit, sans création d'emplois, on ne peut pas sortir de la pauvreté. C'est vrai, on peut créer des emplois, mais qui va accéder à ces emplois? Ce sont les mieux formés qui vont accéder à ces emplois. C'est pour cela que on parle de planifier la croissance, planifier les naissances, de façon à ce que, quand les parents, en fonction des revenus qui sont disponibles, ils peuvent arriver à ce que leurs enfants soient les mieux formés. S'il y a création d'emplois, ce sont les meilleurs qui vont accéder à ces emplois. Un a parlé de développer l'agriculture. Oui, on va développer l'agriculture. Mais il faut savoir, on produit pour combien de personnes? C'est important de savoir si nous passons d'une année à l'autre. En 1960, nous étions 15 millions. Aujourd'hui, la population de la RDC est estimée à 67,8 millions. Donc, on ne peut pas continuer à produire comme on produisait en 1960 avec la petite roue. On produisait pour nourrir 15 millions de gens. Aujourd'hui, on doit produire pour nourrir 67 millions de gens. Ça veut dire que il faut bien maîtriser les relations entre la population, l'effectif de la population, la structure de la population et les différents facteurs qui vont amener le développement, qui vont réduire la pauvreté au niveau du pays. Il y a des auditeurs qui sont en fait qui ont proposé des solutions, comme quelqu'un qui parlait de la promiscuité, qui parlait de sensibilisation, je crois, parlait de la sensibilisation de la population. Je voudrais informer les auditeurs, s'ils ne le savent pas, qu'on a lancé, la première dame a lancé la campagne sur le repositionnement de la planification familiale. C'est important de pouvoir planifier, si on va au niveau individuel, c'est important que chacun puisse planifier sa famille en fonction des revenus qui sont disponibles. J'ai beaucoup aimé l'auditeur qui a parlé de la pauvreté qui pouvait se transmettre de génération en génération. Effectivement, si on n'a pas planifié, la pauvreté peut se transmettre de génération en génération. Puisque sur le marché de l'emploi, on va rechercher les meilleurs, si au lieu d'avoir un enfant qui est bien formé, vous en avez cinq qui ne sont pas allés à l'école, ils accéderont difficilement à des emplois qui sont rémunérateurs.
Oui, je sais que vous allez continuer, mais permettez-moi de vous interrompre par rapport à cette sensibilisation. Quand on regarde le degré de sensibilisation que nous avons en ce qui concerne, bien sûr, la planification des naissances, on dirait qu'elle s'adresse plus aux femmes qui vont consulter quand elles ont des grossesses, ou soit elles vont avec les enfants à la consultation préscolaire. C'est à ce niveau-là qu'on voit plus cette sensibilisation, c'est limité. On voit de moins en moins cet engagement, je ne sais pas à quel niveau, des hommes qui sont sensibilisés, ils sont de moins en moins sensibilisés. Si on n'en parle pas à la radio comme ça, on ne verra pas assez d'hommes qui sont intéressés à la planification. Mais c'est plus les femmes qui vont consulter, mais ça risque d'être une sensibilisation un peu biaisée si les deux ne sont pas impliqués.
Effectivement, c'est un des défis que nous avons, c'est de pouvoir sensibiliser le plus le nombre de gens possible, mettre l'information. Le droit à la planification familiale, c'est un droit humain actuellement reconnu sur le plan international. Il faut que l'information arrive au niveau de toutes les personnes qui désiraient planifier leur famille et que les méthodes pour planifier la famille soient proposées à tous ceux qui veulent accéder à la planification de leur famille de façon à ce que, effectivement, ceux qui le désirent puissent espacer les naissances, puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent. C'est un des défis sur lesquels nous allons beaucoup insister au cours de cette campagne. Il y a aussi une série d'activités qui sont prévues pour que ce défi-là soit relevé, que la planification familiale, les informations sur la planification familiale, les différentes méthodes de planification familiale soient mise à la disposition de la population là où elle en a le plus besoin.
Et avant d'écouter Justin, François et Dr. Richard, juste alors, c'est comme si nous nous adressons à la population, cela veut dire aux familles, ceux qui ont leurs responsabilités, tout ça, mais quelle est la part maintenant, parce qu'ils ont évoqué la création de l'emploi, ils ont parlé de l'investissement dans l'agriculture, c'est aussi la part de décideurs de politique. À ce niveau-là, quel est leur degré de responsabilité dans tout ça? On peut avoir deux enfants, mais dès lors qu'il n'y a pas une politique bien définie dans l'accès à l'agriculture, cela, ça peut être un problème, l'interrelation entre la responsabilité de la population et des décideurs.
Effectivement, les décideurs ont leur part de responsabilité, parce que c'est eux qui, au premier chef, mettent en place les stratégies, les politiques nécessaires pour réduire la pauvreté. Et dans la mise en place de ces politiques et de ces stratégies, ils doivent nécessairement prendre en compte les questions de population. Ils doivent nécessairement prendre en compte les relations entre la population et les différentes variables du développement. L'accès au travail, l'accès aux soins de santé, l'accès à la planification familiale, ils doivent nécessairement tenir compte de ça dans les politiques, dans les programmes qu'ils mettent en place, dans les différentes stratégies de développement. Ils doivent faire ces liens-là. C'est vrai, il y a une responsabilité des dirigeants.
Voilà. François, vous êtes à Boutembo. Justin, c'est déjà ce qu'on a, on l'a déjà libéré, je crois bien. François est à Boutembo et Dr. Richard est ici à Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Voilà. François, vous êtes en ligne, bonjour. François, bonjour.
Oui, bonjour, j'entends très bien et j'admire trop les réactions de nos prédécesseurs. Ils ont vraiment donné des avis qui sont palpables et favorables, la planification, l'investissement dans l'agriculture, l'élevage et tout ça. Mais ils ont ignoré une chose qui est très importante.
Ajoutez cette chose.
Dans ce pays, tout ce que je dis, pourquoi nous avons un pays qui nous est donné par les créateurs, qui a une terre là vraiment très féconde. L'agriculture est favorable, l'élevage est favorable, on peut même faire la planification, mais comment on peut parvenir à réaliser tout ça si les autorités du pays ne savent pas comment sécuriser leur population? c'est la chose la plus importante. D'abord, il faut comment sécuriser la population. En sécurisant la population, l'agriculture peut être encore beaucoup plus favorable, puisque ça va permettre à ceux qui ont créé des emplois avec l'implantation des usines. Et on aura par exemple à transformer, à transmettre les produits agricoles de notre propre pays. Et pour que nous ayons par exemple les huiles, puisqu'on cultive des tournesols, on a des maïs, on a des haricots. Vous voyez, si on faisait tout ça, il y a une plantation des usines, des poissons, ça pourrait directement faire faciliter la création des emplois. Mais quand on n'est pas sécurisé, prenons le cas dans les Ruchou, les Massissi, on prend les Moutouanga, nous prenons le cas comme dans les Sipsibou, où les gens ont cette force-là de cultiver, les gens luttent et luttent pour qu'il y ait une diminution de la pauvreté, mais avec une insécurité grandissante comme ça, les gens ne savent pas comment aller au champ, les gens ne savent pas comment aller se nourrir leurs bêtes, les gens ne savent pas comment aller pêcher, les gens ne savent pas comment même aller travailler, parce qu'on n'a pas la sécurité. Je crois qu'en combinant alors tout ce que mes prédécesseurs ont dit avec la sécurité, là, on parviendrait directement à une diminution. Pas partir d'une diminution totale, puisque ça nous permettrait d'exploiter notre pays, d'exploiter les richesses, d'exploiter ce qu'on a et de favoriser sur la population à accéder facilement et aux soins, à tout ce qui peut avoir besoin, à tout donc ce que la population peut en avoir besoin, et cela pourrait nous amener dans un petit paradis dans ce pays que j'admire trop. Vous le voyez vous-même, on a presque tout.
Merci.
Malheureusement, on n'a pas la sécurité, monsieur.
Merci, François. Au-delà de ce que les autres ont déjà dit, vous avez ajouté un aspect qui est aussi important, c'est la sécurité. Merci beaucoup, qui peut permettre aux gens de pouvoir travailler. Nous rentrons ici à Kinshasa. Docteur Richard, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour, notre invité, et bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Voici mon apport, qui est en quatre petits points. On ne peut pas lutter contre la pauvreté si on ne tient pas compte de la formation qui doit être par objectif et surtout objectif de développement. Pourquoi je dis ça? Regardez les importateurs de cure-dents. Ils ne savent pas qu'ils importent le bambou qu'ils peuvent planter ici chez eux et transformer. Vous voyez? Donc, ils prennent les capitaux ici, ils amènent les capitaux frais, non, ailleurs. Parce que la formation n'a pas été une formation par objectif. Il peut être licencié, docteur, je ne sais pas en quoi, professeur, je ne sais pas quoi, mais il importe les bambous qu'il peut planter ici. Deuxième petit point, les meilleurs pour notre invité, les meilleurs enfants qui ont bien étudié, c'est qui? Moi, je vois la plupart des chômeurs que je rencontre là, ce sont des gens qui ont fini avec 80%, 70% dans les facultés, mais on ne sait pas les utiliser. Mais ceux qui ont échoué en premier, deuxième graduat, ils sont aujourd'hui boulangers. Ils nourrissent la population. Ils sont aujourd'hui quadros. Ils réparent les pneus des professeurs ou de ceux qui ont fait 70% qui chantent. Le meilleur, c'est qui? Je crois que le meilleur, c'est celui qui peut apporter la solution à la communauté. Ce n'est pas celui qui a un grand diplôme, qui a impressionné les gens. OK? Donc, les meilleurs formés, ce sont ceux qui apportent la réponse aux questions de la communauté et au mieux les solutions. Troisième petit point, en ce qui concerne les diplômes, je crois que les diplômes, c'est pas seulement, on ne peut pas bâtir un pays avec les diplômes universitaires. Les universitaires sont des concepteurs. Si vous avez 1 million de concepteurs, c'est comme vous avez dans une armée 40 généraux qui ont fait les stratégies de guerre, et derrière eux, 20 hommes de troupes, ils vont gagner la guerre comment? Ok? Donc, peu de concepteurs, beaucoup d'hommes de troupes, c'est-à-dire les techniciens, etc. Or, le pays n'aime pas ce qu'on appelle les petits diplômes. Un électricien, on marche sur lui, parce qu'il n'est pas électricien de l'université. Pourtant, c'est lui qui peut faire le travail que l'universitaire a conçu. Donc, la stratification des diplômes et la valorisation de cette stratification est très importante. Et je veux ici, celui qui est à l'échelle là, celui qui nettoie les véhicules sur la route, on ne prend pas ce monsieur en compte dans le développement, dans la création de richesses dans le pays. Troisième petit point enfin, en ce qui concerne le planning familial. Vous savez que le planning ne peut pas être une parade de modernisme à faire. Ça doit être un choix éclairé, encadré
Nous savons, nous connaissons des femmes qui ont des maladies aujourd'hui parce qu'on leur avait imposé le nombre d'enfants par le mari suite aux enseignements du planning. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné, on a créé une malade. Ça doit être, si un couple choisit la pronatalité encadrée, si ce n'est pas encadré, on crée encore des problèmes de santé, de développement au pays qui vont faire régresser le pays. Donc, nous devons sortir des théories des livres et rentrer dans les théories de la pratique après vérification. Sinon, on ne sera pas un développement harmonieux du pays. Ça sera un colmatage de théories russes, de théories coréennes. Et puis, on fait un amalgame qu'on n'arrive pas à gérer.
Merci.
Un alliage insupportable.
Merci docteur Richard. 4 points, on a suivi. J'ai quand même notre invité à pu noter parce qu'on pourra commenter cela et vous avez évoqué, c'est ce que moi je voudrais souligner. Vous avez, en ce qui concerne le planning familial, vous avez insisté, le choix éclairé et encadré. Merci beaucoup. Victor, vous êtes à Walikale, au Nord Kivu. Bonjour. Victor, vous êtes en ligne, bonjour. Apparemment, Victor s'est registré sous sa ligne, ça nous permet d'aller à Karanga, au Kassai occidental. Valérie, vous êtes en ligne?
Oui, allô.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres. Nous commentons autour de la journée mondiale de la population, surtout la réduction de la pauvreté. Mais cela déjà nous a même permis qu'on évoque d'autres sous-thèmes qui sont dans cette célébration, comme les contrôles, le planning familial, comme aussi l'éducation, cela a été déjà évoqué, je me rends compte. On vous écoute, Valérie.
Oui, je voulais vous poser une petite question à notre invité.
Allez-y.
La question est de savoir, est-ce qu'il y a un nombre concret aujourd'hui que le monde puisse atteindre? Et en l'occurrence, notre pays, la RDC.
Mm-hmm. Oui. Attendez, concrètement, vous voulez savoir s'il y a, on est contraint à atteindre quel nombre d'habitants sur la Terre, c'est ça?
Non, s'il y a un nombre concret que le monde puisse atteindre.
Ah, s'il y a un nombre concret que le monde puisse atteindre.
Oui, donc on appelle, il y a un nombre qu'on appelle que le monde puisse atteindre.
Ah, voilà, voilà. Si vous avez peur, en fait, la question c'est de savoir, est-ce qu'il y a un chiffre qu'on a peur, et si on arrive à ce chiffre, voilà.
Oui,
on vous a compris. Maintenant, allez-y alors.
Oui, moi je voulais parler un peu pour diminuer la pauvreté, on doit tenir compte aussi de l'aménagement du territoire.
Mm-hmm.
Parce qu'aujourd'hui, moi je ne vois pas qu'il n'y a pas tellement l'augmentation de la population, mais je veux dire qu'il y a concentration de la population dans nos villes.
Mm-hmm.
Bon, du fait qu'il n'y a pas l'aménagement du territoire, toute la population qui vit les villages ont quitté leur village pour venir se concentrer dans la ville.
Mmh.
Et c'est ce qui fait que dans la ville, il y a maintenant la pauvreté, il y a le chômage. Trouver du travail, ça devient du tout un problème. Donc, on doit chercher le développement durable, désenclaver et l'intégration surtout du territoire congolais et l'industrialisation, surtout aussi la décentralisation, cela fera que les villageois, les gens qui vivent les villages, puissent rester au village et travailler. On a parlé aussi des champs. Et cela sera qu'il puisse y avoir une bonne collaboration. Les gens quittent le village avec les marchandises, venir vendre dans des villes, et cela fera que le nombre des gens qui habitent la ville sera un nombre suffisant et cela va permettre et ça va aider que la pauvreté puisse diminuer. C'est ça ma participation.
Merci Valérie. Vous êtes à Karanga, au Kassai occidental. Au-delà de tout ce que les autres ont dit, vous avez ajouté l'aménagement du territoire parce qu'on a aujourd'hui à une concentration de la population en ville. Vous pensez qu'on a pu accompagner toutes les autres mesures. À Kamina au Katanga, Dekaba, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour Radio Café, bonjour à l'invité.
La réduction de la pauvreté, oui. La réduction de la pauvreté au centre de notre échange aujourd'hui. On vous écoute, les cabas.
Ok, je remercie d'abord toute l'équipe de la Radio Café pour l'opportunité que vous m'accordez pour pouvoir participer dans ce que vous
parlez.
Au point, la pauvreté touche d'abord particulièrement les milliers d'euros. Si chez nous, à Kamina, certaines personnes se lancent à la politique au lieu de travailler, comme vous le savez, qui appartient à qui va faire.
Oui, Dekaba, on a un problème, c'est pas... Oui, essayez un peu de vous déplacer un tout petit peu, hein, le temps que la réalisation vous réécoute, on pourra revenir à vous. Rentrons au Kassai occidental, Gabriel, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, donnez votre point de vue, le temps que Dekaba puisse se repositionner. On va revenir à lui. On vous écoute, Gabriel.
Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais seulement vous dire que vous avez remarqué et constaté avec nous ensemble que cette intervention de tous les intervenants converge et se recoupe vers l'agriculture. C'est bien bon de se pencher vers l'agriculture, mais il faut aussi voir le voie de vacillation. Il faut commencer pour le développement et réduire la pauvreté, commencer par les voies de communication. Mm-hmm. Parce qu'il y a des produits qui sont peut-être qui s'amassent dans nos villages et qui poussent, que la population n'a pas le moyen de les faire acheminer vers le centre de consommation. Donc il faudra commencer par les voies de communication, notamment les routes, comme ça. Les produits ici de nos villageois peuvent aller pour faire consommer au niveau de villes. Mm-hmm. C'est ça, par exemple, vous avez Kanyama. Kanyama a une bonne terre où on peut faire des tas et tas de l'agriculture de maïs qui peut nourrir le Bengashi, qui peut nourrir le Bougival, parce que Kanyama fait des choses avec Monoditu et le Bengashi. Donc, si vous prenez aussi la ville comme Kisangani, c'est une ville où on peut se pencher à l'agriculture. Ici, au café de Nansarakan, par exemple, nous avons des territoires qui sont appelés, qui étaient appelés autrefois les greniers, qui existaient la ville de Kananga. Nous avons Lisa, nous avons Mouka, nous avons Lobo. Si on a des voies de communication, les routes sont bien entretenues. Je pense que les produits ici des champs peuvent être évacués au niveau des villes pour la consommation. Et c'est pour cela, à cause du manque de route, que nous avons un système ici que nous appelons de Bayanda. Donc nous sommes retournés au moyen rudimentaire. Mmh. J'ai l'eau, des jeunes gens qui prennent
pour amener
les dispars à manger vers les grands centres de consommation.
Oui.
Donc il faut commencer par les voies de communication pour
évaluer
les produits.
Voilà, Gabriel, vous avez évoqué le terme Bayanda, ça veut dire les hommes qui transportent.
Ça veut dire que les jeunes gens prennent les vélos. Mmh. Ils prennent une charge, par exemple, d'une tonne sur un bloc,
voilà.
Le maïs, de l'huile, voilà. Même les carburants. On les prend sur un vélo. C'est ce que nous appelons les bayandas.
Les bayandas, les hommes qui font le transport de produits ouvriers par vélo. Merci. Oui. Vous avez agité les routes et les dessertes agricoles, les voies de communication qui doivent être aussi comme une priorité pour l'évacuation des produits. Merci, Dekaba. Je pense que votre ligne, ça va maintenant. Dekaba, vous êtes encore en ligne? Non, apparemment, il y a beaucoup de difficultés avec Amina. Nous rentrons à Gemena parce qu'on a vu que vous avez eu bravo de Gemena. Félix, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, la radio Capitale.
On vous écoute, Félix.
Ok, je voudrais revenir juste pour les détails concernant l'hospitalité et puis la pauvreté. Concernant la pauvreté, chaque 15 jours, nous avons une conférence de débat organisée par l'UNESCO qui était pour terme le sous-développement et les pays en voie de développement. Qu'est-ce que ces derniers jours, l'animateur de ce thème nous disait ces jours-là, nous disait pour qu'un pays puisse être développé ou en voie de développement, il faut que ces pays puissent arriver à transformer les matières. N'est-ce ce que j'ai ajouté sur tout ce qui vient, tout ce qu'on dit, c'est la transformation des matières premières, qui notre pays arrive à transformer les matières premières comme tout autre pays, la Chine, les États-Unis et de tout autre continent. Concernant maintenant l'inégalité, c'est ce que je suis en train de dire. L'agent de la monnaie nous a amené, nous a dit que nous arrivons à transformer les matières premières sur le plan. Alors, qu'est-ce qui fait que les consommateurs qui nous gèrent pour la stabilisation de notre pays ne nous gèrent pas aussi pour transformer notre matière première? C'est ça la question que je voulais poser plus vite à la France.
Merci. Félix, vous avez ajouté au-delà de ce que les autres ont dit, la transformation des matières premières. Merci beaucoup. Nous allons revenir à vous.
Ok, une petite correction de Félix.
Félix, oui, je crois, je vais avoir bien dit Félix, merci beaucoup. On revient à vous, monsieur Joseph Kayembe. On a écouté les auditeurs. D'une manière générale, il y a tous ces points de vue. Il y a aussi la question qui a été posée par notre ami Valérie Descanangas, qui en a peur d'atteindre un certain chiffre. Mais je m'en vais aussi poser une question, c'est par rapport à votre structure, le Fonds des Nations Unies pour la population. Quels sont les niveaux d'intervention de Fonds des Nations Unies pour la population par rapport à la réduction de la pauvreté? C'est une question par rapport à ce que vous faites au niveau de votre structure,
ouais,
pour appuyer la RDC dans cette quête de la réduction de la pauvreté. Et vous allez répondre à cette question après avoir commenté un tout petit peu les avis des auditeurs.
Merci bien. Je commencerai par le docteur Richard, qui a beaucoup parlé de la planification familiale et il a commencé par dire qu'il s'agit d'un modernisme aveugle. Je voudrais dire à docteur Richard que la planification familiale, c'est pas une invention des autres. Si il pose des questions autour de lui ou s'il observe un tout petit peu, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents savaient très bien planifier leur famille parce que entre la naissance entre deux enfants, généralement, n'était jamais en dessous de deux ans. Il y avait toujours un espace de deux ans. Donc, c'est pas des choses que nos ancêtres ne connaissaient pas, qu'on leur apporte maintenant. Maintenant, il dit, si une famille veut avoir de la pronatalité encadrée, on devrait l'encadrer, on ne doit pas copier ce qui se passe ailleurs. Je pense que depuis le début que nous en parlons planification familiale. Donc, nous ne sommes plus à l'époque où on mettait un accent sur la limitation des naissances. C'est depuis la conférence internationale sur la population et le développement qui a eu lieu au Caire en Égypte en 1994, il y a eu un consensus international sur le fait que on doit toujours faire un lien entre la croissance de la population, entre la population et le développement d'un pays, et le développement social du pays. C'est sur ça que nous insistons. Quand nous parlons de planification, c'est qu'il faut que chacun arrive à avoir le nombre d'enfants qu'il veut, au moment où il le veut. Qu'il n'y ait pas des enfants qui ne sont pas désirés, en fonction de ses moyens, de façon à ce que, comme un auditeur l'a dit, on ne puisse pas transmettre la pauvreté de génération en génération. Et là, je reviens sur un autre aspect du problème qu'il a soulevé. Il a parlé de la formation en disant, voilà, la formation par objectif, le meilleur enfant formé pour lui, c'est celui qui peut résoudre le problème, un électricien, un soudeur qui va résoudre le problème. C'est vrai que les études, ça sert à ça, ça résout les problèmes qu'on vit au quotidien. Mais entre-temps, on ne peut pas non plus oublier que nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé. Pendant que vous allez faire votre petite soudure, si à côté, il y a quelqu'un qui vient de notre pays qui a une technologie plus avancée, certainement qu'on va se tourner vers lui, certainement qu'il pourra produire à moins cher, et on va se tourner vers lui. C'est pourquoi nous avons insisté sur le fait que quand une famille est planifiée, on peut donner aux enfants la meilleure formation possible dans la filière où ils auront choisi, de façon que face à l'emploi, face aux problèmes à résoudre, qu'ils soient les mieux armés. C'est ce que nous disons. Et donc, nous ne parlons pas de la limitation des naissances, nous parlons plutôt de la planification, voilà, des naissances. Avoir le nombre d'enfants que l'on désire au moment où on le veut. Ça, c'est important pour pouvoir planifier le développement dans un pays. Est-ce qu'il y a un nombre,
on a peur
d'atteindre un chiffre quelconque? On n'a pas peur d'atteindre un chiffre quelconque, mais au fur et à mesure que la population croît, ou même décroît, il y a des défis à relever. Ici, nous nous posons le problème par rapport à l'accroissement de la population. Il y a des pays qui se posent des problèmes parce que la population est en train de décroître.
Voilà.
Ça pose également des défis. Ce qu'il faut à chaque stade, c'est faire un rapport entre la population et les problèmes de développement qui se posent. On a parlé de l'accès des jeunes, la création d'emplois. Il y a une bonne solution dans un pays où 68% de la population est constituée des jeunes. Et il faut que ces jeunes, pour pouvoir accéder au marché de l'emploi,
qui me dé une formation qui puisse faire concurrence à d'autres qui sont aussi sur le marché de l'emploi, venant peut-être des autres pays ou venant des meilleurs établissements de formation.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a pas un nombre qui fait peur, mais à chaque pas que l'on fait, à chaque selon les niveaux d'évolution de la population, on doit se poser des questions par rapport aux problèmes de développement, par rapport à l'accès à l'éducation, par rapport à l'accès à la santé.
Voilà, parce que le temps, c'est vraiment bon, mais le temps est en train de nous bousculer. Gulin, j'ai donné, gardez la ligne, hein. Vous aurez, je crois bien, une minute à chacun pour commenter ce sujet. On revient à vous par rapport à la question que j'ai posée. Peut-être en grande ligne, hein, les actions de Fonds des Nations Unies pour la population par rapport à ces volets réduction de la pauvreté. Un peu en grande
ligne. Voilà, en tant qu'agence des Nations Unies qui est chargée des questions de population, le Fonds des Nations Unies pour la population soutient le pays pour prendre en compte les questions de population dans l'élaboration des politiques et des programmes qui visent à réduire la pauvreté. Et cela a un lien notamment avec le niveau de fécondité d'un pays. D'où on doit avoir maîtrisé la croissance de la population dans un pays. C'est pour cela que le Fonds des Nations Unies pour la population appuie le gouvernement pour que chaque naissance soit une naissance désirée et que chaque accouchement se passe soit sécurisé et que les jeunes, qui est la plus grande partie de la population et qui est l'avenir du pays, puissent être protégés du VIH-SIDA.
Voilà. Et on va revenir à vous pour conclure le temps d'écouter les deux derniers auditeurs, comme Guilin qui est à Denis. Vous êtes en ligne. Bonjour Guilin.
Bonjour, je m'appelle depuis la partie de Mangina.
Mangina, oui, je crois, c'est une localité à Béni. Rapidement, dans 30 secondes, on vous écoute parce qu'on termine déjà.
Oui, j'aimerais demander à nos intellectuels, étudiants, jeunes, comme moi qu'on a terminé, de faire ce qu'on appelle les initiatives privées. N'allez pas à part ce qu'on appelle donc, le gouvernement va créer de l'emploi. Mais c'est à nous, jeunes, de nous mobiliser, de faire. Toi, attends, ça passe, après, créer quand même là où on va vivre quand même. Parce que nous, voilà, on se concentre dans les milieux qui sont urbains. Mais venez dans les intérieurs, donc dans les intérieurs, mais créons quand même nos petits interdits privés. Parce que si nous attendons le gouvernement, on peut attendre même 15 ans, mais demandons aux jeunes de faire les interdits privés. Si il y a dans les centres urbains,
merci.
Il y a le boulot qui manque.
Merci Gulin, il faudrait de l'initiative privée pour ceux qui terminent les études au lieu de se concentrer en ville. On termine avec vous Dieudonné, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la radio, Fabi et à l'invité.
Et voilà, on vous écoute aussi rapidement, oui.
Mm-hmm. Ok, je pense que pour le développement de notre pays, il faut que le gouvernement crée un fonds pour les agriculteurs. Parce que le volet de développement d'un pays, c'est l'agriculture. Parce que tout le monde a besoin de l'alimentation. Merci beaucoup.
Merci, Dieudonné. Il faut un fonds spécial pour renforcer le secteur agricole. On va terminer avec ce message de Tadi Adambati qui dit ceci. Quelles sont les mesures préventives envisagées face à cet accroissement, surtout pour notre pays? On a parlé de la promiscuité, le chômage, la faim. Alors, quelles sont les mesures préventives? André Kayaya de Kananga dit ceci. Je pense qu'aussi longtemps que la majorité des Congolais fait les commerces d'importation des biens et qu'il n'y a pas une production interne, là, tout ce qu'on peut avoir comme aide financière internationale ne peut que retourner dans le pays donateur. On revient à vous, M. Joseph Kayembe, 2 minutes et demie pour conclure cette émission et peut-être dire en 30 secondes ce que vous trouverez encore dans le programme sur la sensibilisation par rapport à cette journée.
Oui, merci bien. Je commencerai par Dieudonné, je crois, qui parle des mesures préventives pour face à cet accroissement de la population. Une des mesures préventives les plus importantes, c'est ce que nous avons évoqué, c'est la planification familiale. Mais on peut aussi parler de l'amélioration de la santé maternelle et l'amélioration de l'accès à l'éducation des filles. Puisque vous avez parlé au début de l'émission des inégalités, l'accès à l'éducation est défavorable quand on regarde les garçons par rapport à la fille. L'accès à l'emploi est défavorable aux femmes, alors qu'ils constituent la majorité de la population. Environ 52% de la population de la RDC est constituée par des femmes. Donc, si on améliore l'accès de la population, l'accès des jeunes, l'accès des enfants à l'éducation, si on améliore la santé maternelle des femmes en bonne santé,
Ils éduqueront mieux leurs enfants et des enfants mieux éduqués accéderont facilement aux emplois. Des enfants mieux éduqués répondront facilement aux défis qui se posent dans leur vie quotidienne, dans la vie de la nation.
Et la suite de la célébration, vous avez parlé de tant d'activités, oui.
Nous avons parlé de la journée mondiale qui a lancé en fait une campagne. Mm-hmm. Cette campagne va s'étendre jusqu'au 31 octobre, le jour où naîtra la 7 milliardième personne dans le monde. Mm-hmm. Nous espérons que ce sera en RDC. Et nous avons aussi prévu, d'ici le mois d'octobre, il y aura la remise d'un prix spécial UNSC pour la population qui sera attribué à un partenaire qui se sera distingué dans la mise en œuvre des activités en rapport avec la santé maternelle, la planification familiale ou la collecte des données pour le développement. Il y aura aussi les débats radio-télévisés sur les différents thèmes en rapport avec la santé maternelle.
Merci.
Dans le cadre de la Semaine des Nations Unies, il y aura aussi une série d'activités qui sont prévues dans le cadre de cette campagne.
Merci à vous, M. Joseph Kaïndé. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé du programme Population et Développement au Fonds des Nations Unies pour la Population. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis et ceux-là qui ont participé à cette émission. Parole aux auditeurs. On va se retrouver demain, mercredi, à 10h30.
Allô? 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 Il ne répond pas?
On se retrouve demain mercredi, comme je le disais, à 10h30 pour un autre numéro des paroles aux auditeurs consacré au processus électoral. Les opérations de révision du fichier électoral continuent à se clôturer presque à travers le pays. Une seule question pour l'émission de demain, comment envisagez-vous la suite du processus électoral? Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à produire cette émission. Alors, restez branchés parce que le programme continue sur Radio Capi.
Il est 12h.